RFI. Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et merci de nous rejoindre en cette journée printanière, en cette journée de printemps plus précisément, parce que d'ailleurs c'est encore un peu gris à Paris, mais c'est le printemps du côté de RFI et de Radio Foot International. Toujours des choses fleuries à vous raconter. Avec le football allemand, un football dans une mauvaise passe, nous semble-t-il. La Nationalmannschaft a perdu de sa superbe depuis son sacre en 2014 et les clubs de la Bundesliga ne sont plus en course en Ligue des champions, qui pour symboliser la relève dans le groupe d'un sélectionneur à son poste depuis 13 ans. Et d'ailleurs, Joachim Löw est-il encore l'homme de la situation? Nous essaierons de répondre à ces questions. Le V-Club de Kinshasa, éliminé de la Ligue des champions d'Afrique, dernier de son groupe alors que le FC Simba s'est qualifié à ses dépens en Tanzanie. Mais que s'est-il passé à Dar es Salaam durant ce match retour? Florent Ibenge a réclamé auprès de la Confédération africaine de football et vous entendrez pourquoi. Quand un philosophe pense football, ça donne un ouvrage, presque une thèse, peut-être, La magie du football, que vous avez écrit, Thibault Leplat, bonjour.
Bonjour Annie.
Vous nous proposez de philosopher aujourd'hui dans Radio Foot International?
Ben on va voir, ouais. Il ne faut pas forcer les gens à philosopher, donc il va falloir voir si tout le monde a envie de philosopher.
Oui, ben autour du football quand même, ça devrait aider, avec au moins, ce n'est pas une feuille blanche, il y a quand même une thématique.
Non.
Pour aimer le football, il faut le connaître, et pour le connaître, il faut l'aimer, c'est ça la thèse de base?
C'est la thèse de base, oui. C'est la thèse des amateurs, ce qu'on appelle l'aficionado en espagnol.
Alors on va y venir, vous parlez espagnol, quelqu'un va vous comprendre sur ce plateau. Carlos Bianchi, bonjour.
Bonjour à tous.
Merci d'être dans Radio Foot, fidèle.
Merci à vous.
N'est-ce pas? Et Philippe Doucet est à vos côtés, bonjour Philippe.
Bonjour Madame Annie.
Philippe, Monsieur Philippe, toujours fidèle, et Hugo Moissonnier aussi, bien sûr, bonjour Hugo.
Bonjour Annie, bonjour à tous. Je remarque que tous les chroniqueurs du jour ont des lunettes, sauf Thibault Leplat. Vous avez invité les plus intelligents pour tenter de déchiffrer sa prose.
C'est l'âge, c'est pas la poésie, c'est ça.
Ça c'est vrai, ce que tu viens de dire. Tu sais, quand on est petit, c'est lui qui portait les lunettes, on croyait qu'il était plus intelligent que les
exactement,
autres.
Exactement, mais j'ai trompé pas mal de monde avec ça.
Mais tu sais une chose, combien de présidents dans le monde ils portent des lunettes? Et comme ça va le monde.
Il n'y en a pas beaucoup, ils les cachent en fait.
Il y en a même qui portent des lunettes sans verre, juste pour avoir l'air sage.
N'est-ce pas? Alors, sur cette pensée philosophique, Radio Foot, c'est parti.
Et à la fin, c'est nous qu'on gagne, c'est nous la manche. Kommen Sie nochmal die Deutschen über die linke Seite. Ball kommt in die Mitte rein, die Möglichkeit für Götze.
Sur ce ballon qui rebondit deux fois et que Silesen accompagne du regard. C'est un petit break, mais c'est un break quand même pour la jeunesse allemande. Werner tout à l'heure, Leroy Sané maintenant, 2-0.
Et oui, pour la Mannschaft 2014, c'était peut-être hier que les Allemands soulevaient donc cette Coupe du Monde dans le temple du Maracana, dans le temple du football, et l'équipe allemande atteignait son sommet, mais elle ne le savait pas encore, car depuis, la Mannschaft a oublié de disputer des finales, parfois même des demi-finales, éliminées de l'Euro 2016, c'était donc au stade des demi-finales, éliminées aussi dès la phase de groupe en Coupe du Monde, récemment en Russie, vous vous en souvenez évidemment, et puis sorti aussi du groupe A de la Ligue des Nations en novembre dernier. Hugo, vous avez des statistiques qui tuent encore plus.
Ah là, la statistique qui tue, 13 matchs en 2018 pour la Mannschaft, 4 victoires, 3 nuls, 6 défaites. Alors si mes informations sont exactes, c'est le pire bilan tout simplement, en termes de défaites en tout cas, de l'histoire de l'équipe allemande. En tout cas le pire bilan depuis 1908, je ne suis pas sûr qu'elle ait disputé beaucoup de matchs avant 1908, donc une année historique au mauvais sens du terme pour l'équipe d'Allemagne.
Philippe Doucet, une question toute simple, après on viendra au détail de cette équipe allemande, mais comment en est-on arrivé là? On se le demande du côté côté de l'Allemagne, mais on peut aussi se le demander du côté de la France.
Oui, vu de l'extérieur, parce qu'il faudrait vraiment être à l'intérieur de la machine pour comprendre complètement, mais vu de l'extérieur, il est clair que Joachim Löw a été au bout d'une génération. Il a poussé jusqu'à son maximum une génération, pas forcément en termes d'âge d'ailleurs, certains ne sont pas forcément vieux, mais on fait déjà 8 ans, 3, 4, 5 campagnes d'Euro, etc. en équipe nationale. Je pense à tous les Özil, Khedira et autres. C'est pas des vieillards, mais
Thomas Müller,
exactement, qui sont pas vieux, mais qui en ont fait des caisses, quoi. Qui ont fait 3, 4 faciles compétitions. Et puis, il y a un moment où ça a lâché, quoi. L'Euro a été encore satisfaisant. Je trouve que l'Allemagne est encore dans son football. Elle joue encore. Le football qui l'a fait championne du monde.
Mais face à la France, qui était peut-être symbolique aussi.
Oui, mais la France est à domicile. Il y a un peu de réussite en plus pour l'équipe de France sur la première période. Et puis bon, voilà, il y a quelque chose qui est passé. Vous avez peut-être raison de le souligner quand même, parce que l'Allemagne, déjà, à cette époque-là, n'a plus d'attaquants. Et ça continue. C'est-à-dire qu'en 2016, il n'y a plus d'attaquants. Et en 2018, il n'y en a plus du tout. Alors là, on est obligé de rappeler à Mario Gomez ou autre. Enfin bon, on est au bout du banc. On ne sait plus comment faire.
Ouais,
on marque plus jamais un but. On joue apparemment bien au football. Il y a un moment fantastique avant que Carlos intervienne. Il y a un moment fantastique pour moi, c'est le début de la Coupe du Monde de l'Allemagne. Ils jouent contre le Mexique, qui n'est pas une équipe négligeable. Ils attaquent le match avec 2 défenseurs et tous devant. Et là, on se dit, alors quel toupet, quel culot d'avoir une confiance aussi extraordinaire en ayant perdu des tonnes de matchs de préparation parce qu'ils n'avaient pas été bons avant.
Ouais.
Ils attaquent ça, mais alors vraiment comme ça.
Bon, la fleur au fusil, on dirait.
Alors vraiment la fleur au fusil. Bon, le seul problème, c'est qu'ils perdent. On est à la fois admiratif devant cette espèce d'armée qui y va sans hésiter comme ça, et en même temps on se dit mais c'est complètement fou, et puis la folie amène au désastre.
Carlos, selon vous, comment l'Allemagne en est arrivée là, c'est-à-dire on est quand même que 5 ans et demi après la finale face à l'Argentine au Maracana.
On parle pas de la Coupe du Monde.
C'est leur sac.
Une année plus tard, je crois qu'ils ont gagné la Coupe de la Confédération avec la réserve.
Il y avait effectivement
en 2017.
Tout le monde, il n'y a pas un qui a dit le contraire. Ils ont dit l'avenir de l'Allemagne est là.
Effectivement.
Oui, très
ça
juste.
Fait mais d'ailleurs, ans. Il la gagne brillamment. Oui,
facilement.
Et avec une équipe B,
ça
puisque Joachim Löw avait laissé.
Ça fait deux ans. Il n'y a pas un qui l'a critiqué, cette équipe. Ils ont dit l'avenir de l'Allemagne, il est là. Il est passé la Coupe du Monde, l'avenir n'était pas là, il le pressionne aujourd'hui. Je crois qu'il y a quelque chose qui va ensemble, parce que des fois ça fait du mal de changer les joueurs quand on est entraîneur depuis longtemps. C'est un petit peu l'histoire de Bayern de Munich. Aujourd'hui, j'ai lu qu'Honest, il a dit on va dépenser 200 millions d'euros pour changer complètement l'équipe de Bayern de Munich. Pour quelle raison ? Vous avez gardé Robin, vous avez gardé Ribéry, vous avez gardé tel, vous avez gardé l'autre, vous avez gardé...
Comme dans la sélection, jusqu'au
et
bout
la sélection,
du bout
c'est
du
pareil. Arrive un moment, et là, il est questionné, l'entraîneur Löw. Mais pour quelle raison? Si lui, il veut gagner les matchs, il veut que l'Allemagne soit championne, alors il se rend compte que peut-être qu'il y a des joueurs qui sont plus le niveau pour jouer la Coupe du Monde ou pour jouer des éliminatoires. Il faut les comprendre. Lui, il veut pas perdre. C'est pour ces raisons-là qu'ils sont arrivés sans se rendre compte à une situation que ça fait 2 ans, c'est pas très longtemps, hein. Ça fait 2 ans.
C'est vrai.
Tout le monde, il s'est remplisé.
On croyait que la relève était là. On va y venir. Thibaut, vous avez un regard, vous aussi, j'imagine, sur cette équipe d'Allemagne. Comment voyez-vous leur situation actuelle, alors?
Ce que je trouve très intéressant, c'est qu'en période de crise, c'est tenté que ce soit une crise qui a défaite d'affilée. Enfin, pour l'Allemagne, oui, et pour nous, bon. C'est... Puis il y a tout un tas d'équipes dans le monde. Déjà, il faut relativiser par rapport aux autres équipes du monde. C'est qu'en cette période de crise de résultats, l'entraîneur est maintenu, le sélectionneur est maintenu. On double la mise.
Maintenu, mais critiqué quand même.
Critiqué, mais maintenu. Il a été quand même.
Enfin, ça fait 12 ans qu'il
est là. Mettez-vous dans un autre contexte. Mettez-vous
13 ans qu'il
en Argentine.
Ouais, ouais.
Mettez-vous en France, même en France. Mettez-vous aux Pays-Bas.
Ouais.
Il y a qu'en Allemagne qu'on maintient, qu'on est capable de maintenir un sélectionneur en dépit d'une élimination qui est arrivée très tôt dans la compétition. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui est un indice sur, en quelque sorte, la sollicité de l'organigramme, en fait, de la fédération allemande. Après, il y a eu des réformes dans la formation. J'ai vu qu'ils ont réévalué philosophiquement un certain nombre de points dans la formation allemande, et tout en maintenant un entraîneur. Et le fait, précisément, d'avoir soutenu la génération suivante, a permis à Love aussi de gagner un certain capital de durée, parce que ça lui a permis de dire j'ai fait donne la chance aux jeunes, je suis capable de faire d'être l'élément de continuité, et vous pouvez tout changer quand vous avez un élément de continuité comme ça. Effectivement, je trouve ça intéressant, je sais pas s'il faut limiter, mais en tout cas je trouve ça très intéressant qu'on dise il faut changer un certain nombre de joueurs, mais on va garder le capitaine.
Thibaut,
enfin le capitaine du bateau quoi.
Faut se rappeler de 2008 quand l'équipe de France échoue piteusement à l'Euro.
Oui, regarde Domenech.
Et tout le monde conteste Domenech, et Domenech se présente lui-même comme l'homme capable de renouveler l'équipe.
Oui, enfin Domenech n'était pas champion du monde, n'était pas...
Non, mais il était finaliste de 2006.
Il n'avait pas le CV de Love maintenant.
Il était finaliste de la Coupe du Monde 2006 et tout le monde était là à se dire bon, oui, contesté sur la méthode.
Il a été contesté avant et contesté pendant la compétition et à la fin, il se sauve, c'est Zidane en quelque sorte qui sauve Domenech, qui lui donne 2 ans de répit. Donc c'est...
Non, mais en 2008, il n'est pas viré.
Non,
c'est-à-dire que tout le monde l'écoute et dit bon, alors après tout, s'il dit qu'il peut renouveler, bon, alors oui, d'accord, on le fait.
Oui, bon, ça avait été ça a un drôle de moment. Nice, voilà.
Oui, mais il était, ce que je veux dire, c'est qu'il était déjà décrédibilisé depuis très longtemps. Enfin, Love, il n'a pas été mis en question sur ses compétences.
Pas par les décideurs. Les décideurs le maintiennent en 2008.
Oui, mais les contestations à l'égard de Domenech étaient sur ses compétences en tant qu'entraîneur, en tant que sélectionneur. Pas Love.
Hugo ?
Ouais.
Oui, je voulais poser une question à Carlos Bianchi, Joachim Löw.
Pourquoi tu vas regarder comme ça ?
Parce que j'ai une question à vous poser. Les lunettes, la connexion rémoise, on a beaucoup de choses à se dire, Carlos. Il a fait un choix fort, il a pris une décision de management, désolé pour le mot anglais, très forte, Joachim Löw. Il est allé à Munich, il est allé annoncer à des cadres de la sélection qu'il ne comptait plus sur eux.
Le 5 mars.
Il a annoncé publiquement qu'il ne comptait plus sur 3 joueurs, il les a désignés. C'est des joueurs, comme le disait Philippe, qui ne sont pas encore si vieux que ça. Est-ce que ça vous choque en tant qu'entraîneur, vous avez eu à gérer des effectifs, est-ce que c'est pas surprenant de faire ça aussi publiquement, aussi frontalement?
Mais attention, il l'a fait publiquement et on ne sait pas s'il l'a pas fait personnellement.
S'il l'a d'abord fait personnellement.
Alors ça c'est extraordinaire. Un entraîneur qui vient et te dit je compte pas avec toi, parce que ça il te donne les raisons. Tu dois les accepter. Par contre, si tu connais la nouvelle par l'intermédiaire de la presse, ça c'est pas bon.
Mais désigné comme ça, je dirais pas des boucs émissaires,
tu sais quoi, c'est pas une question qu'il a désigné. Il a dit, dans ces postes-là, je vais essayer des autres joueurs. Et il a dit, sûrement, c'est ce qu'il a dit à ces 3 joueurs-là.
Et il a dit décision irrévocable, hein,
c'est tout à fait normal, non. Moi, ça me choque pas, moi. Je vous dis la vérité, ça me choque. Je préfère quelqu'un qui vient me dire, tu vas pas jouer parce que tu n'es pas bon. Tu ne mérites pas de jouer, c'est fini.
Est-ce que ce sont, pour prolonger votre question, Hugo, est-ce que ce sont ces 3 joueurs qui portent la responsabilité des mauvais résultats récents, Philippe ?
Non, même des piliers de l'équipe sont devenus mauvais, si j'ose dire, ou l'ont été avec la sélection nationale. Manuel Neuer n'est plus du tout à son niveau.
Justement, on va écouter Joachim Löw. Alors, vous partez sur Manuel Neuer. Écoutons Manuel Neuer, parce que, justement, bizarrement, Manuel Neuer reste, et ce soir devrait jouer un match amical, et sans doute jouera-t-il après, mais en tout cas, le sélectionneur s'en explique.
Je n'ai pas changé d'avis. Manuel Neuer est notre numéro 1. Je l'ai dit en novembre et tout récemment. Il est notre numéro 1, il est notre capitaine. Nous n'avons cette année quasiment que des matchs de qualification avec quelques rencontres amicales. Marc Ter Stegen joue à un niveau mondial et il aura sa chance cette année. Je lui donnerai sa chance. Ensuite, nous verrons ce qui se passera. Manuel Neuer devra être performant l'année prochaine et quand il sera avec nous. Il sait de toute évidence la concurrence règne partout. Mais pour le moment, il est notre numéro
1. Justement, la surprise, c'est peut-être un peu ça. Il décide d'enlever ses 3 autres joueurs. Manuel Neuer, on l'a vu très en difficulté pendant la Coupe du Monde. C'est un joueur qui a été longtemps blessé, beaucoup blessé. On a l'impression que c'est plus Manuel Neuer.
Et surtout, il y a Ter Stegen qui est peut-être aujourd'hui le meilleur gardien du monde, d'ailleurs.
Et qui pousse. Oui,
qu'il n'y ait pas de débat, en tout cas pour le sélectionneur.
Comment comprendre?
Choix de sélectionneur, Carlos.
Je le vois comme ça. Le gardien, il va jouer parce que peut-être qu'il n'a pas quelqu'un qui peut la
Ter Stegen,
relève.
Ter Stegen, mais
peut-être qu'il ne trouve pas que c'est pas son niveau.
Il est le seul au monde, alors, parce que tout le monde pense que Ter Stegen aujourd'hui est à peu près le meilleur.
Peut-être qu'il trouve des solutions dans les autres 3 postes. C'est pour ces raisons-là que les autres, ouais. J'ai pu me permettre de les écarter parce que j'ai des autres joueurs. Mais peut-être que Neuer, il croit encore en son arrière.
C'est aussi parce qu'il est capitaine.
Oui, puis c'est une dynamique de vestiaire aussi.
Ouais.
C'est comme chez nous, Zidane, Thuram, Makelele. C'est des politiquement, ce sont des sénateurs. Ce sont des gens qui ont plus de 100 sélections, qui ont gagné beaucoup, qui pèsent très lourd politiquement en Allemagne. Et c'est comme des ministres importants d'un gouvernement. Mmh. Ben, quand vous voulez vous en séparer, ben, vous mettez en scène, vous mettez la forme. Eux, ça leur plaît, ça les flatte, et en même temps, ça leur permet de soigner leur sortie. Vous savez pas la dynamique du vestiaire, vous savez pas dans quelle mesure Neuer a de l'influence en rapport à des autres joueurs. Effectivement, il va peut-être mettre Ter Stegen, mais il va perdre l'influence qu'a peut-être à Neuer sur les autres, sur les plus jeunes. Donc, c'est une dynamique qu'il faut comprendre comme ça. C'est un groupe, Carlos le saura mieux que moi, mais bon, moi je travaille sur des classes, donc c'est à peu près pareil. Ce sont des groupes humains. Donc, les gens sont pas substituables l'un à l'autre. Parfois, vous avez un tel qui s'entend pas avec un tel. Ouais. Parfois, l'autre qui pèse plus, qui a plus de journalistes de son côté, l'autre qui en a moins. Donc, il y a des dynamiques qu'on maîtrise pas et qui sont parfois des dynamiques collectives comme ça. On a désigné 3 joueurs, on aurait peut-être en désigner 3 autres. C'est une manière symbolique de dire aux autres, vous voyez, il y a des gens qui ont plus de 100 sélections, qui ont tout gagné, ils peuvent partir par la grande porte. Chez nous, on va mettre les formes. C'est ça que ça veut dire.
Sauf qu'eux, ils l'ont très mal pris et que le club du Bayern l'a aussi très mal interprété.
Annie, je te dis une chose. J'étais joueur de football. Le joueur de football, il ne veut jamais arrêter de jouer. Il veut continuer à jouer, même s'il est mauvais, s'il ne peut pas bouger, s'il est genou, il a mal. Il veut continuer à jouer. C'est là le problème. Il faut se rendre compte. Il faut avoir la lucidité.
La lucidité.
La lucidité de dire « j'arrête
». Et ça, c'est dur.
Hugo ?
Non, mais il y avait juste une réflexion qui me venait en tête. C'est vrai que l'Allemagne est dans un creux. Elle avait connu un creux similaire en 2004, élimination au premier tour de l'Euro.
Même pendant sa Coupe du Monde en 2006, chez elle.
Bah alors déjà, elle s'est déjà pas mal régénérée pour 2006, puisqu'elle atteint les demi-finales. Elle avait enchaîné deux finales de l'Euro en 2008, demi-finale Coupe du Monde 2010, demi-finale de l'Euro en 2012 et champion du monde.
Ouais.
10 ans plus tard, 10 ans après le creux de 2004, elle est championne du monde. Elle a remis en place son modèle de formation. Elle s'est réinventée dans le jeu. Donc les ressources du football allemand et la compétence pour savoir se remettre en question, elles sont là.
Les cycles sont beaucoup plus longs qu'on ne le croit. La vraie remise en cause de l'Allemagne, c'est 2000. En 2000, ils font un euro catastrophique.
Élimination au premier tour également.
Premier tour, je crois qu'ils font un point. Ils perdent 3-0 contre le Portugal, qui n'est quand même pas une référence, contrairement à ce qu'on pense depuis Ronaldo, mais ce n'est pas une référence, et surtout pas en 2000. Et l'Allemagne se remet complètement en cause. Elle sait qu'elle fait la Coupe du Monde en 2006. Elle remet en cause tout son modèle économique, les stades, etc. Mais aussi au niveau formation des entraîneurs, formation des joueurs. Elle remet en cause toute la filière foot. 2002, ils font une finale par accident un peu de la Coupe du Monde, mais ils s'arrêtent pas pour autant. Ils se disent pas, bah oui, c'est bon, finalement, on s'est gouré, c'est pas grave, les joueurs ont 35 ans, mais c'est pas grave, l'équipe est très bonne, c'est très bien. Non, ils continuent à remise en cause jusqu'au bout, et ça revient en 2006, et ils partent sur un cycle quand même de 10 années remarquables. De 2006 à 2016, c'est remarquable, c'est sans arrêt demi-finale, finale. Et l'Allemagne est exactement en train de le faire, exactement de la même manière. Ils se sont posés des questions après 2018, ils sont à nouveau réunis, ils ont à nouveau reparlé de formation et autres. Ils remettent
ils
en cause.
Ils ont pas tout remis en question. Ils ont pas
moins de choses. Moins de choses.
2000, hein,
moins
de choses.
Ils sont les mêmes dirigeants.
Mais 2000, oui. 2000, oui. Faut se rappeler.
Toujours les mêmes dirigeants.
Non. Pas le président de la fédération.
Ah non, ça change.
Non, le président de la fédération a changé. Oui.
Mais ça veut dire que la mentalité, elle continue, le système,
il est respecté. Oui, parce que ils ont
un travail de fond.
Ils ont cette faculté de voir à long terme. Ce qui est un peu difficile chez nous.
C'est un triomphe de la rationalité.
On a du mal.
Ce qui est intéressant avec l'Allemagne, c'est qu'on voit qu'il y a une politique sportive qui est menée, avec certains nombres d'objectifs chiffrés, non chiffrés, une politique de formation, de logique, quelque chose de logique, quelque chose de rationnel. Et on voit que dans le football, en étant rationnel, on peut parfaitement y arriver. Que c'est pas juste de la passion, c'est pas juste du court terme, c'est aussi du 5 ans, du 10 ans. Et quand on fait des efforts sur 10 ans, on voit que nécessairement ça paye parce qu'on est rationnel. Effectivement, là, le problème, effectivement, qu'a peut-être l'Allemagne, c'est qu'elle est peut-être trop rationnelle. Et on le voit dans le jeu. Elle est trop automatique. Elle est trop mécanique.
Il y a plein de joueurs créatifs maintenant.
Il y a
depuis lors.
Il y en
depuis
a qui...
lors, ils ont
oui, mais dans
le
jeu,
allemand,
ce que je veux dire, Philippe, c'est dans le jeu qu'on l'a vu à la Coupe du Monde, c'était un jeu stéréotypé, et c'est pas pour rien qu'ils ont du mal à trouver des attaquants, c'est que ça manque un peu de génie. Donc il faut revenir, réfléchir, et peut-être trouver cette faille, cette petite chose qui va être le détail, le crochet, le centre en retrait qui à ce moment-là,
parce que c'est les
types comme Götze, des types comme Götze ont disparu. Voilà, c'était des types comme ça qui manquent encore.
Le problème, c'est qu'ils tuent un petit peu les attaquants, c'est que tout le monde joue avec 5 milieux terrain aujourd'hui, c'est incroyable.
Il joue avec un attaquant, vous parlez.
Il joue avec un avant-centre,
Carlos Bianchi.
Et après, il joue avec ces mecs qui gagnent les valeurs.
Non, Carlos, tu vas être content parce que tout le monde est devenu attaquant maintenant.
Non.
C'est ça qui dérange.
Ils ont déjà.
L'attaquant, c'est un attaquant.
Quels sont, selon vous, les joueurs qui peuvent symboliser cette relève? On évoquait Ter Stegen, évidemment.
Ils sont déjà là.
Il y a le Roi Sané qui n'est pas allé à la Coupe du Monde. On en a suffisamment parlé. Il y a aussi.
Werner.
Timo Werner. Bon, alors, il déçoit.
C'est un bon attaquant.
Mais il déçoit peut-être un petit peu. Oh, il avait été très bon en 2017, oui. Mais et puis on a par exemple Maximilien Egerstein là, Nicolas Stark et Lucas Klostermann qui sont les trois nouveaux intégrés dans cette équipe. À noter, ils ne viennent pas du Bayern. Il y en a un qui vient de Leipzig, l'autre qui vient du Werder Bremen et du Hertha. On a d'ailleurs peut-être le Bayern est un petit peu moins représenté.
Bah, le Bayern est vieux et étranger. Il y a beaucoup de joueurs étrangers, donc c'est tout à fait logique. Effectivement, ils soient moins représentés.
Serge Gnabry peut-être.
Oui, voilà. Gnabry fait partie. Voilà. Gnabry qui clairement représente cet avenir, et je pense que le Bayern va rénover son équipe et notamment dans le sens de la jeunesse. Tout le monde a besoin de jeunesse, mais Löw a déjà intégré. La faute qu'a fait Löw, à mon avis, c'est que après 2017. Carlos l'a très bien souligné, quand il gagne il doit ouvrir davantage le jeu en disant attention, ces gars-là qui ont gagné la Coupe des Confédérations, c'est pas juste des remplaçants, c'est pas juste pour faire ma liste.
C'est pas l'équipe B.
C'est pas juste pour faire ma liste de 12 à 23, c'est des joueurs qui vont jouer. Or, il l'a pas fait.
Ouais. On l'a vu en 2018,
à la Coupe du Monde. Il l'a pas fait.
Ouais. Hugo, un petit mot?
Oui, un petit motif d'espoir pour les Allemands qui nous écoutent, si d'aventure il y en avait, et puis pour s'adresser également à nos auditeurs africains, parce qu'il y a quand même un joueur dont vous avez parlé, Annie, qui a des origines africaines, sénégalaise plus précisément, le Roi Sané, dont le père est international.
Ah oui, je pensais que vous parliez de Gnabry.
Il y a Gnabry également, qui a des origines ivoiriennes, effectivement, mais il y a le Roi Sané, qui s'appelle le Roi, en hommage à Claude Leroy, 14 buts, 17 passes décisives, toutes compétitions confondues, en club pour le Roi Sané, c'est dire s'il est performant. Donc voilà, un petit peu d'optimisme pour nos amis allemands.
Et voilà, cette équipe d'Allemagne donc, qui jouera un match amical ce soir face à la Serbie, ça sera un petit peu une mise en jambe. Et ensuite, eh bien, il y aura le gros match dans ce groupe où s'est retrouvée l'Allemagne pour la qualification à l'Euro 2020. Elle s'est retrouvée avec les Pays-Bas.
Bah oui, parce qu'elle est plus tête de série.
Voilà, exactement. Et les Pays-Bas, qui les avaient sévèrement battus. Le 13 octobre dernier, le 13 octobre dernier, les Pays-Bas avaient battu l'Allemagne aux Pays-Bas 3-0. Ensuite, en Allemagne, ils n'avaient fait que 2-2 le 19 novembre, c'est-à-dire un mois après. Et c'est vrai qu'à cause de ça, l'Allemagne est donc descendue dans ce groupe groupe B de la Ligue des Nations. On en reparlera donc et on verra comment cette Allemagne a abordé ses matchs. Le TP Mazembe défendra les couleurs de la RDC en Ligue des Champions. Les Corbeaux de Lubumbashi se sont qualifiés, connaîtront donc leur adversaire en quart de finale ce soir. Ce sera le tirage au sort au Caire, au siège de la CAF. Mais pour les Dauphins Noirs, eh bien, l'histoire s'est arrêtée. L'aventure s'est arrêtée en huitième de finale après la défaite enregistrée face au FC Simba, un club de Tanzanie. Ils ont fini dernier du groupe D, les Dauphins Noirs. Une élimination à l'issue donc du match retour et d'une défaite qui ne passe pas pour l'entraîneur du V-Club Florent Ibengué, qui dénonce les conditions dans lesquelles ces joueurs ont affronté ce match retour. Florent Ibengué au micro de notre correspondant à Kinshasa, François Caboulot, et le récit, vous allez l'entendre, est consternant.
La veille du match, pour s'entraîner, on a dû se battre. Il y a eu de la bagarre au stade, alors que c'est tout à fait normal de s'entraîner. Ils n'ont pas voulu qu'on rentre, ils ont laissé notre bus dehors pendant je ne sais combien de temps. Donc il y a eu des échauffourées. Et le jour du match, eh ben évidemment, on n'a pas pu accéder à notre vestiaire parce qu'il était aspergé par je ne sais quelle substance. C'est d'ailleurs le coordonnateur du match de la CAF qui est venu nous accueillir pour nous dire de ne pas rentrer dans le vestiaire parce que c'est lui-même qui l'avait ouvert, parce que c'était impossible. On s'est habillé à même le sol dans le couloir avec quelques émanations qui continuent à sortir du vestiaire. Donc on a dû mettre des masques. Et puis après, une chose que j'ai jamais vue encore, après dans le match, on a eu de l'eau entre guillemets piégée. Il y a eu quelques bouteilles où ça sentait fort, mais rien ne dit que dans toutes les bouteilles qu'on a eues, il n'y avait pas une petite dose qui fait qu'on a pu être fatigué.
Les officiels de la CAF ont été saisis ?
Oui, j'ai pu saisir les officiels de la CAF au moment où ça s'est passé. C'était flagrant sur un arrêt de jeu. Deux joueurs sont venus me voir pour me demander de l'eau, un de mes joueurs et un joueur de Simba. J'aurais donné chacun une bouteille et deux petites bouteilles étaient piégées. Mon joueur a tout de suite recraché et l'autre voulait se rafraîchir et s'asperger. Il a eu des problèmes au niveau des yeux. Donc après, j'ai donné les bouteilles. Le commissaire est parti avec les bouteilles à la CAF. Mais c'est inadmissible, on fait du football. Je ne comprends pas qu'on puisse traiter un adversaire de cette façon-là. C'est incompréhensible. Je crois que c'est même une tentative d'empoisonnement. Parce que si vous buvez de cette eau, vous pouvez vous retrouver à l'hôpital.
Voici le témoignage de Florent Ibengué. Nous sommes en ligne avec le secrétaire général du V-Club à Kinshasa, Patrick Banishai. Bonjour Patrick Banishai.
Oui, bonjour.
Merci d'être en direct dans Radio Foot International. On vient d'entendre ce témoignage assez surprenant et affligeant de la part de Florent Ibengué. Il dit qu'il a avisé les agents, les observateurs de la CAF qui étaient sur le terrain à Dar es Salaam. Est-ce que vous avez formellement porté plainte ?
Oui, effectivement, dès notre retour à Kinshasa, nous avons, par le biais de notre fédération nationale, ma FEDOFA, formalisé la dénonciation. Depuis le 18 mars, et c'est arrivé à la CAF. D'ailleurs, les officiels du match avaient eux-mêmes emporté quelques preuves, des sanctions, des bouteilles d'eau. Et les joueurs de la CAF étaient servis et qui ont fait que deux de mon joueur ont connu des malaises terribles, notamment le vice-capitaine Gompinga, de phare numéro 15, qui n'a pas pu jouer alors que c'est lui qui devait commencer le match. Il a eu un malaise terrible qu'il n'a pas permis de monter sur le terrain. Et ensuite, pendant le match, le capitaine Monganga a connu le même problème. Et donc, il y a aussi le joueur Tushula de phare numéro 1, capitaine Monganga de phare numéro 6, ont manifesté des signes évidents. Donc, de fatigue qui ont fait que nous soyons convaincus qu'il y a eu drogue dans l'eau qu'on nous avait servie.
Surtout que le but qui va éliminer le V-Club intervient à la 89e minute. Une autre question, Patrick Banishai, qu'attendez-vous de cette plainte ? Est-ce que vous pensez que la CAF va vous entendre ? Est-ce que, par exemple, vous voulez que ce match soit rejoué ?
Nous pensons que la CAF... Nous souhaitons que la CAF puisse réagir, puisque ces genres de pratiques ne sont pas permises en football. Donc la CAF devrait saisir l'équipe sportive pour des pratiques antisportives. Donc je ne vois pas une autre solution que de sanctionner, sinon ça va continuer à se répéter. Et d'ailleurs, si on remonte un peu plus avant, toujours dans notre groupe et toujours à Dar es Salaam en Tanzanie, on constate que les joueurs d'Al-Ahli ont été victimes de cette pratique, tout comme les joueurs de Saoura. Donc, si le club a dû peut-être éviter la catastrophe, c'est que tout simplement, on a été un peu plus vigilant, puisqu'à l'entrée des vestiaires, le commissaire général, le coordinateur général, qui a ouvert et qui est entré le premier, a senti que l'odeur était toxique. Et par conséquent, on devait donc éviter d'entrer aux vestiaires. C'est lui d'ailleurs qui a autorisé le club de s'habiller dans le couloir. Et cela aura eu lieu de contrôle d'usage.
D'accord. Merci beaucoup Patrick Banishai d'avoir été en direct dans Radio Foot International et on suivra cette affaire alors que ce soir aura lieu le tirage au sort en principe avec le club de Al-Ahli et de Simba pour ce qui est du groupe D. Merci beaucoup monsieur. Philippe, ça peut aboutir ce genre de plainte et ce genre d'affaire parce que apparemment ça a concerné tous les adversaires du V-Club dans le groupe D.
Ce qui est incroyable, c'est la banalisation de ce genre de fait qui fait qu'on en entend parler même pas le jour du match, même pas le jour du premier ou du deuxième match, mais plusieurs jours après le troisième match de cette équipe. Apparemment les faits sont têtus et se sont déroulés plusieurs fois, donc c'est assez déprimant que vous aperçoit qu'on finalement on banalise on banalise apparemment. C'est-à-dire qu'on attend de rentrer, pour. C'est fou, quoi. C'est-à-dire qu'on a, ça veut dire qu'on est dans un.
Là, le match a eu lieu samedi. Hein,
En gros, quand on est à l'extérieur, donc on a tellement peur de tout qu'on attend d'avoir pris l'avion et d'être très très loin pour pouvoir dire, au fait, je vous rappelle qu'il s'est passé ça. C'est lamentable, c'est dommageable. Et ça veut bien dire à quel point c'est pourri et ça explique plein de résultats en Afrique. Aujourd'hui, peu d'équipes arrivent à gagner à l'extérieur pour de multiples raisons, dont celle-là.
Et vous pensez que ça peut aboutir ? Alors qu'on est à quelques heures du tirage au sort.
J'ai peur que non, parce que les délais vont pas le permettre. On est dans une année exceptionnelle en plus, c'est-à-dire que le calendrier est hyper ramassé, puisqu'on a commencé en novembre pour finir en juin, ce qui d'habitude n'est pas le cas. D'habitude, on finit en novembre.
Et avec la CAN dans la foulée.
Donc, j'arrive pas à imaginer la CAF capable à la fois de faire une enquête rapide, d'avérer en quelque sorte les faits, de sanctionner et du coup de changer le tirage au sort et le prochain match qui va être dans une semaine, j'y crois pas trop.
En tout cas, le délégué de la CAF qui était à Dar es Salaam est un responsable du Cap Vert qui a, dit-il, remis, qui devait rédiger un rapport pour le remettre à la CAF. Hugo?
Oui, ça fait écho à un autre épisode qui concerne également le football africain, des éliminatoires de la Coupe du Monde. Cette fois, on grimpe un peu en termes d'enjeux. Et Pierre-Henri Aubameyang qui avait ironisé sur un jus d'orange bu avant un match et une lourde défaite face au Maroc en éliminatoire de la dernière Coupe du Monde. Mais si on se replonge, si on fouille un petit peu sur les internets, on s'aperçoit que l'Afrique n'a pas le monopole de ce genre de polémiques. Le football français des années 80, par exemple, est friand de ce genre de.
Vous savez que
t'es riche en
avec
de cette matière.
Que même à des niveaux inférieurs, même en France, j'en discutais encore un peu plus tard que la semaine dernière, des éducateurs de grands clubs français qui occupent des réserves vont en Corse et sont confrontés exactement au même problème dans l'indifférence générale. Dans l'indifférence générale, parce que dire ce genre de choses, c'est s'exposer à énormément de représailles, soit contre les joueurs, parce que le principe des championnats, c'est qu'on y revient toujours. On finit toujours par revenir à l'endroit. Et du coup, et ça existe dans le football français. On a parlé des révélations du monde, les années tapis, mais on peut pas. Quand on parle du contexte corse en France, les joueurs qui ont joué au PSG le savent très bien.
Récemment, il y a eu un déplacement à Ajaccio où Thiago Motta avait mais parlé de pratiques des années 80.
C'est valable.
De
l'eau froide, le pire, c'est que ça se passe aussi chez les jeunes. Alors les jeunes qui vont jouer en Corse, dans certains clubs corses, pour pas dire tous les clubs corses, quand ils vont jouer en Corse, ils savent que ils ont match perdu. Ils le savent. Ils savent qu'il y a un contexte qui fait qu'il y a des menaces de mort contre les joueurs sur le terrain, alors que les joueurs jouent. Vous avez des éducateurs qui viennent menacer des joueurs adverses de l'équipe. Je vous dis ça, c'était la semaine dernière. Hein.
Non.
Donc, vous savez.
Aujourd'hui, ils font ça.
Ça existe toujours. Ça existe toujours dans l'indifférence générale, parce que c'est des sujets politiques compliqués. Et ça existe en France, ça existe partout dans le monde. En Argentine, il y a des histoires qui sont similaires.
Oui, mais je sais pas.
Ça fait longtemps que.
Il y en a pas en Argentine.
Je pourrais jamais le dire. Les Barras Bravas, à Boca ou à Vélez,
c'est pareil. C'est des.
Mais les menacés des morts.
La finale, mais bien sûr. Mais là, on va te casser, des menaces verbales, des agressions verbales, c'est des choses qui existent toujours. C'est des choses qui sont parfois reportées, parfois non.
On s'est plongé dans les archives pour voir alors un niveau encore plus élevé. C'était en Coupe du Monde 1990, ça vous dit quelque chose peut-être, Carlos Bianchi, 8e de finale. Le Brésil joue face à l'Argentine et Branco avait eu l'idée d'aller boire une bouteille offerte par les Argentins pendant le match. Écoutons le commentaire à l'époque qui nous replonge un peu dans ce match-là.
Coupe du Monde 1990 à Turin, le 24 juin. L'Argentine a-t-elle triché pour éliminer le Brésil en 8e de finale? Branco, le latéral gauche au coup franc redoutable, aurait été victime d'une bouteille d'eau. Pendant la pause, j'ai demandé à boire au masseur argentin. En buvant, j'ai senti un goût étrange et quand je suis entré au vestiaire à la mi-temps, je sentais mes jambes moites et ma tête qui tournait. Par la suite, j'ai eu du mal à jouer à mon niveau. Diego Maradona lui-même affirme dans une émission de télévision que Branco a bu ce jour-là un somnifère à son insu. L'ancien sélectionneur brésilien, lui, Sebastião Lazzaroni, demandera à ce que les Argentins soient punis. 24 ans après les faits, la victoire de l'Argentine sur le Brésil n'a jamais été annulée et le mystère reste entier.
Le mystère est-il toujours entier, Carlos? Vous savez ce qui s'est passé?
Moi, je sais la même chose que vous. Je pense que ce que j'ai lu, je n'étais pas là.
Oui.
Je pense
que vous pouvez imaginer?
Les joueurs de l'Argentine, ils savent très bien ce qu'ils ont fait. Mais tu sais comment ils étaient quand il y avait un blessé qui tombait par terre. Il rentrait, le kiné, avec le masseur, avec des bouteilles, et il les mettait là, du côté là. Pour... Mais les Argentins, ils ne bouvaient pas. Et alors, ils venaient, les Brésiliens, ils bouvaient.
Ça, c'est les stratégies Bilardo, ça.
C'était...
Ça, c'est Bilardo qui avait tout pensé, non?
Mais il n'y a que Bilardo qui est coupable seulement.
Peut-être pas, non. Peut-être
pas, mais je pense que c'est bien son genre. Quand même. Non, mais c'est pour ça que par exemple, les bouteilles d'eau maintenant sont réglementées par la FIFA, c'est fourni par la FIFA. Enfin, c'est à cause de ça, c'est à cause de ces histoires-là.
Mais alors, comment expliquer, parce qu'on a des exemples qui viennent de différents continents, de différentes époques, comment expliquer, philosophiquement parlant, Thibault Leplat, que ce soit presque accepté, toléré, voilà, on est tous au courant, tout le monde le sait, à toute époque,
bah déjà,
dans tout continent, et puis on accepte.
Déjà, c'est le fameux pragmatisme, qui corrompt tout. Le pragmatisme, ganar como sea, on en parlait tout à l'heure, gagner selon n'importe quelle manière, de n'importe quelle façon, ça amène à justifier ce genre de pratique. Et justifier le pragmatisme, justifier, il y a que la victoire qui compte, il y a que le résultat qui compte, on justifie indirectement ce genre de pratique. Pourquoi? Où s'arrêter? Où s'arrêter? Dans la mesure où on considère que le résultat est premier, où est-ce qu'on s'arrête? Voilà, c'est pour ça que moi je prône pour autre chose.
On va s'arrêter là, mais nous, on essaiera de suivre cette affaire autour du V-Club et voir si réellement la CAF prenait, ce qui serait peut-être surprenant, prenait une décision.
Ce sera d'autant plus compliqué qu'il y a un troisième club qui est impliqué, Saoura, le club algérien.
Exactement.
Qui a aussi perdu la qualification dans ce but de dernière minute de Simba. Donc c'est très très complexe.
Ça peut avoir assez. Ça peut avoir de différentes conséquences, on va dire. Allez, direction, la philosophie autour du football. Maracana, on y revient au Maracana, le football brésilien qui a peut-être représenté le beau jeu, vous allez nous le dire. C'est un livre que vous avez écrit où se mélange donc football et philosophie. Est-ce que c'est facile de mélanger Spinoza, Kant et Didier Deschamps, Mbappé et Thomas Müller?
Non, je crois que c'est même plutôt logique. Hein. Vous savez que Socrate était un grand amateur de sport, il faisait la gym tous les matins.
Les Monty Python ont fait jouer au foot, non? C'était pas eux. D'ailleurs,
c'était l'Allemagne. C'est les Grecs qui gagnent sur une butte de la tête de Socrate. Non, pour moi, c'est quelque chose d'assez naturel, quelque chose que j'ai toujours fait.
Vous êtes professeur de philosophie en plus. Hein.
J'ai joué longtemps au football, j'ai beaucoup écrit sur le football, et c'est quelque chose qui me semble assez naturel. Alors, je comprends que ce soit pas forcément naturel pour les gens qui sont pas forcément habitués, mais je crois que moi, la philosophie m'a aidé à comprendre un peu mieux le football.
C'est pas
le football qui m'a aidé à comprendre la philosophie, c'est la philosophie m'a aidé à comprendre. Oui, aidé à comprendre un peu la complexité de ce jeu-là et le prendre à sa juste hauteur. J'essaie de ne pas simplifier le football, de ne pas le réduire à une querelle de soit de clochers, soit une querelle de résultats, soit une querelle de pragmatisme. Je pense que le football est un objet culturel. Qui est quelque chose qui a traversé les civilisations. Ça s'appelle football maintenant, mais on a toujours joué avec le pied, hein, dans tout un tas de civilisations. On a toujours joué avec des ballons et des pieds. On s'est interdit de toucher le ballon avec la main. Je crois que cette idée-là est une idée qui transcende complètement les époques. Et c'est pas pour rien que toute la planète s'arrête. Tous les 4 ans, pour faire la même chose, regarder la même chose. Il y a quelque chose de l'ordre de l'universel. Et je crois que le football est le seul domaine où il y a de l'universel. C'est le seul. Je crois que partout où vous allez, vous pourrez parler football. Même si vous parlez même pas la langue, si vous allez sur un terrain, on vous donne un ballon, vous allez vous mettre à parler le même langage. Et ça, je crois qu'il y a que le football, peut-être l'art, y arrive aussi. Et c'est pour ça que je crois que le football...
La musique.
Voilà, donc l'art, effectivement. Je crois que le football permet ça. Alors évidemment, pas tous les footballs, pas toujours, pas tout le temps. Hein, il y a des moments où il est plus artistique que d'autres.
Alors Thibaut, votre livre s'appelle La magie du football, mais le sous-titre c'est Pour une philosophie du beau jeu. Vous commencez cet ouvrage, alors c'est osé pour un Français, puisque vous nous racontez vos états d'âme au soir du 15 juillet dernier, lorsque la France gagne la Coupe du Monde, et où vous le dites, vous l'écrivez, vous êtes déçu par la manière dont la France a joué. C'est-à-dire que pour vous, le beau jeu doit primer sur le résultat.
Non, je crois qu'il séparait les deux choses. Mais c'est pas moi qui sépare les choses. Hein. Quand c'est Deschamps lui-même qui sépare le beau jeu du résultat, qui nous parle du football de haut niveau, qui nous parle et quand c'est pas le haut niveau, c'est le très haut niveau ou le très 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 haut niveau. C'est toujours un autre sport. Hein. Quand on parle de football dans l'équipe de France, on parle d'un autre sport. Moi, ce que je raconte dans le livre et qui est un peu le point de départ du livre, c'est d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on peut être déçu, est-ce qu'on peut avoir une sensation de frustration. Quand on regarde une équipe de football, et en particulier quand c'est votre équipe nationale. Je suis pas le seul à avoir ressenti ça, mais je parle de Platini. Platini lui-même l'a reconnu, à demi-mot. Que bon, il défendait le jeu, mais que bon, il défendait aussi un peu l'équipe de France. Sous-entendu, bon, c'est pas exactement le même sport. Donc moi, ce qui m'intéresse, la philo, elle est là pour essayer de comprendre les paradoxes. Pour essayer de mettre des mots dessus, elle est pas là pour donner des réponses, elle est
mais
simplement pour les pointer.
Mais qu'est-ce que c'est la définition du beau jeu pour vous?
Ce que j'essaie d'expliquer dans le bouquin, c'est que le beau jeu, c'est d'abord une certaine manière de voir le football. Alors ça vous peut sembler une évidence, mais je vais essayer de le démontrer. Je crois tout simplement que le beau jeu, c'est la seule manière dont on peut parler de football. On peut pas parler de football si on parle de résultats.
Mais
on
alors,
parlera
par exemple,
pas de football. On parlera de résultats.
Récemment, ce club de l'Ajax qui nous a un peu tous enchantés pendant la Ligue des Champions.
C'est la définition du beau chez Kant. Ce qui plaît universellement sans concept. Le match de l'Ajax a plu universellement sans concept, sans avoir d'idée de football.
Même en perdant face au Real.
Il y a une unanimité sur cette équipe-là à ce moment-là. Alors, après, on peut la discuter, on peut dire c'est pas mon idée du football. La chose est que le constat est qu'il y a eu un émerveillement collectif à ce moment-là. Ça arrive parfois, pas tout le temps. Et c'est, je pense que quand ça arrive, c'est là où il y a de l'art. Il y a du génie. Tadic, il y avait du génie dans ce qu'il a fait. Il a eu 10 dans l'équipe. Hein.
Mm-hmm.
Il a la roulette. Pourquoi il y a du génie? Parce qu'il fait une roulette et derrière, il y a but. Et c'est là où on peut pas séparer le résultat du geste.
Carlos.
Le beau geste, je termine, juste le beau geste, c'est le geste qui va à son but.
Carlos, le beau jeu, est-ce que vous l'avez pratiqué, vous l'avez fait pratiquer à vos équipes?
Et dans la mesure que vous avez des joueurs de qualité, oui, mais tout le monde, il n'a pas 11 phénomènes. Vous savez que quand on parle de l'Ajax, de Cruyff, que ça fait longtemps, il y avait un stopper qui était cassé, ou chauff, grand, avec la barbe. On
vous
dirait un ermite, hein, tu te rappelles?
Il faisait peur.
Il te faisait peur. Mais lui, il ne jouait pas au football. Mais il y avait sur lui un Kroll qui jouait au football. Alors,
il faut qu'il y ait des artistes, c'est ça?
Il faut avoir des bons joueurs, mais il y a des autres. Attention, que ces bons joueurs qui jouent bien, ils ont besoin des autres qui ne jouent pas tellement bien. Parce que lui, il vient de parler de Platini. Mais Platini, il avait besoin de Tacchinardi, il avait de Gentile, de Cabrini.
Ou alors de Gérès et Battiston.
En 82, il y avait moins de.
Non, la Juventus,
je parlais
de la Juventus.
Oui.
Et la Juventus, il y avait des mecs qui étaient donnés quand même, hein. Attention.
Oui, mais Platini était admirateur de Cruyff, hein. Il est d'abord admirateur de Cruyff.
Oui, mais je dis.
Il va à la Juve, mais bon.
Tous les bons joueurs, ils ont besoin de ceux qui ne sont pas tellement beaux, qui fassent leur boulot.
Alors, je vais juste apporter une nuance sur ce qu'on disait là. Ce qui m'intéressait, moi, dans ce bouquin-là, c'était le point de vue du spectateur. Mmh. J'ai travaillé beaucoup sur les entraîneurs. Je suis venu plusieurs fois ici pour parler de travail sur Guardiola, sur Mourinho. J'ai traité la question du beau jeu d'un point de vue purement technique. Là, ce qui m'intéressait, c'est le beau jeu du point de vue du spectateur. Mmh. Qu'est-ce qu'on attend en tant que spectateur quand on va voir un match? Et j'ai essayé d'essayer de définir certains critères. Qu'est-ce qui fait que le football reste, à mon sens, un spectacle. Et j'essaie de défendre cette idée-là de manière sérieuse. Et pas juste à dire, ah bah oui, il faut mettre des buts. Non, on a bien compris que c'était pas ça le problème. Et donc quoi, le critère?
Oui, le critère principal, je dirais.
Bah, le critère principal, c'est le fait qu'il y a un universel possible.
C'est ce qu'on disait par exemple au sujet de l'Ajax. C'est-à-dire un moment, un instant T et un moment.
Je crois que c'est la grâce. C'est la définition de Bergson. C'est tout à coup une immatérialité qui se manifeste dans la matière. C'est-à-dire tout à coup l'âme se matérialise dans un corps. Tout à coup, on voit une volonté qui peut faire ce qu'elle veut. Quand je dis que je suis dans un état de grâce, parfois, vous avez des matchs comme ça, il y a tout qui rentre. Ouais. Ou au Federer, il y a tout qui rentre. Vous savez pas pourquoi. C'est ça. C'est à ce moment-là qu'il devient artistique. C'est le moment où la volonté dépasse le corps. La volonté se manifeste et tout à coup, il y a des instants de magie. C'est pour ça que j'ai appelé ça la magie. Mais c'est évanescent. Mm-hmm. C'est pas tous les jours, c'est pas tout le temps.
Hugo?
Oui, le football n'est pas toujours beau sur le terrain pour le spectateur et surtout il n'est pas toujours beau en dehors du terrain pour le spectateur. Certains intellectuels d'ailleurs le rejettent. Vous parlez d'Umberto Eco, de Borges dans votre livre. Vous évoquez également tous ces scandales révélés par des journalistes d'investigation, ces fraudes fiscales à répétition commises par les meilleurs joueurs de la planète. Est-ce que quand on est un intellectuel, c'est pas trop compliqué d'aimer le football quand on sait ce qu'on sait, quand on lit ce qu'on lit.
Bah, je crois que le football n'a que faire de la vérité et ça n'intéresse pas. Le football n'a que faire de la vérité. Enfin,
c'est un monde à part.
C'est un monde à part.
C'est un sacré paradoxe, vous parlez de paradoxe.
C'est un paradoxe. Aimer le football est un paradoxe, mais comme aimer l'art est un paradoxe. Aimer l'art en dépit du marché de l'art, en dépit de l'art contemporain, en dépit des performances, continuez à aimer l'art, continuez à aimer la musique, continuez à aimer Beethoven, continuez à aimer les chefs-d'œuvre.
Pareil pour le foot.
Pareil pour le football. Il y a des chefs-d'œuvre. Parfois, dans le football, il y a des chefs-d'œuvre. Il y a des moments.
Et
il y a
en
des
quel
matchs.
Nom, au nom du beau, au nom de la grâce
Au nom de la grâce. Je crois que je crois que le critère, c'est la grâce. C'est le moment, c'est Nadia Comaneci, on peut parler en 74. C'est 76, pardon. C'est Mohamed Ali. C'est Kinshasa. C'est un moment où, tout à coup, il y a un truc qui surgit, qui est de l'ordre du spirituel, et qui disparaît. Et on en parle pendant des années.
Et on le recherche inlassablement, c'est ça.
Par Philippe rapport à Bergson et Kant, ce sera une phrase moins relevée, mais Claude Leroy dit toujours « J'adore de plus en plus le foot, et de moins en moins son environnement ». Voilà, c'est comme ça. Ça, on peut très aisément le comprendre.
Ce qui nous entoure, c'est la société d'aujourd'hui.
Oui, voilà.
Attention.
Mais je reviens sur ce qui m'intéresse déjà, je lirai sûrement le bouquin avec intérêt, mais ce qui m'intéresse déjà, c'est cette définition du beau jeu. Je pense, Thibault l'a un peu dit tout à l'heure, je pense qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas et je conteste l'universalité qu'il défend. Je la conteste dans un sens. Moi, je sais quel football j'aime. J'aime l'Ajax, le Bayern, le Barça. J'aime ce football depuis toujours et quand je le pratique, je ne tolère pas qu'on m'envoie une balle sur la tête. Je dis mais non, ça n'existe pas. Ça, c'est pas comme ça qu'on joue au football. Bon, mais ça, je le sais moi. Mais je sais que mon voisin, il aime autre chose. Je sais que mon voisin, il aime le football, il veut des longs ballons, il veut que le jeu aille très vite devant, et le spectateur tout autant. Il y a des gens qui ne supportent... Combien j'entends de gens qui disent « Le Barça, qu'est-ce que c'est ennuyeux !» J'ai dit « Mais dis donc, l'adversaire, alors, quel adversaire qui accepte de laisser la balle au Barça, il n'est pas ennuyeux, lui ?»
Alors, question, Philippe, je vais poser la question de Kant, ça veut dire quoi, c'est beau, dans ce cas-là ? Qu'est-ce que je dis quand je dis c'est
pour
beau ?
Ça que je n'emploie jamais ce mot « beau ».
Pourquoi il dit ça ? Qu'est-ce qu'il dit quand
la beauté de l'action,
il dit « Le beau, ce qui est intéressant, c'est qu'il tend à l'universalité. Il n'y parvient pas. Mmh. Et quand je dis « c'est beau », j'aimerais bien que mon voisin aussi dise « c'est pour ça » quand je sors du cinéma, je lui dis « qu'est-ce que t'en as pensé ?» Et que je le prends mal s'il n'a pas aimé le film. Parce que j'ai besoin, le beau, c'est quelque chose de politique. C'est quelque chose qui fait communauté. Pourquoi le beau jeu? Pourquoi le football est intéressant si on le pense comme beau jeu? Parce qu'on le pense comme une communauté. On en parle. On converse. Parler de résultats, on peut pas en parler. C'est faire de la divination. C'est dire, bon, il est avec 3-0, c'est comparer des statistiques.
Quelle triste époque. Non, mais j'adhère complètement. Voilà. Quelle triste époque.
Quand on dit,
préfère tel joueur à tel autre, on me répond, ah ben non, il a marqué 38 buts. Bah oui, alors.
Il n'y a pas de conversation, c'est pas possible.
Il n'y a pas de culture. Plutôt que 38.
Voilà, il n'y a pas de culture. Parler d'art, c'est parler du sens de ce qu'on est en train de faire. Parler du beau jeu, c'est parler du sens du football. Qu'est-ce que ça veut dire, ces hommes qui jouent au football à ce moment-là, à tel endroit?
Mais tout le monde n'a pas la même vérité.
Je crois que la vérité.
Là, je parle du jeu, je ne parle pas du résultat.
Vous avez 20 secondes.
J'ai 20 secondes pour vous dire que le beau. C'est pas quelque chose d'esthétique, c'est pas assez beau, c'est moche. Le beau, c'est une position éthique. C'est-à-dire, on considère qu'il y a une certaine manière de faire. Et on va parler de ça, de cette manière de faire. C'est juste ça, le beau.
D'accord. Dans ce sens-là, oui.
La phrase d'Albert Camus, c'est quand même...
C'est ce que je sais de la morale, je tiens du football.
Oui, la phrase était même un peu plus longue. Le peu de morale que je sais, je l'ai appris sur les terrains de football et les scènes
théâtre.
De théâtre,
et théâtre
qui resteront mes vraies universités. Lui qui a été gardien de but du Racing universitaire algérois.
À quelle époque
dans les années 50 et après il a été prix Nobel de littérature.
70 ans plus
mais
tard.
Mais lui joignait... Non, mais ce que je voulais dire, Carlos, c'est qu'il joignait le football et le côté intellectuel, comme Thibaut Leplat. Merci beaucoup, Thibaut. Revenez quand vous voulez. Revenez quand vous voulez. Merci à David Finzel, Pierre Guérin et Laurent Salerno. À demain.